se consacrer à l'étude. Version moderne des missionnaires de jadis. En tout, une cinquantaine d'étudiants et une vingtaine de chercheurs profitaient des installations de cet institut et surtout de sa gigantesque bibliothèque, fondée à l'époque du mandat français en Syrie, sur laquelle planaient encore les ombres coloniales de Robert Montagne ou d'Henri Laoust. Sarah était très heureuse de se retrouver au milieu de tous ces orientalistes et de les observer. On avait parfois l'impression qu'elle décrivait un zoo, un monde en cage, où beaucoup cédaient à la paranoïa et perdaient le sens commun en développant des haines magnifiques les uns envers les autres, des folies, des pathologies de toutes sortes, des eczémas, des délires mystiques, des obsessions, des blocages scientifiques qui les amenaient à travailler, à lustrer de leurs coudes des heures durant leur bureau sans rien produire, rien, à part de la vapeur de méninges qui s'échappait par les fenêtres du vénérable institut pour se dissoudre dans l'air d'Amasène. Certains hantaient la bibliothèque la nuit. Ils se promenaient entre les rayonnages pendant des heures, en espérant que la matière imprimée finirait par couler, par les imprégner de science, et terminait au petit jour, désespéré de tout, effondré dans un coin, jusqu'à ce que les bibliothécaires les secouent à l'ouverture. D'autres étaient plus subversifs. Sarah me racontait qu'un jeune chercheur roumain passait son temps à dissimuler derrière une rangée d'ouvrages particulièrement inaccessibles ou oubliés une denrée périssable, souvent un citron, mais aussi parfois une pastèque entière, pour voir si, à l'odeur, le personnel arrivait à localiser l'objet pourrissant, ce qui avait fini par provoquer une réaction énergique des autorités. Elles interdirent par voie d'affiche l'introduction de toute matière organique dans le dépôt sous peine d'exclusion définitive. Le bibliothécaire, agréable et chaleureux, avec un visage hâlé d'aventurier, était spécialiste des poèmes que les marins arabes employaient autrefois comme aide-mémoire pour la navigation. Et il rêvait souvent d'expéditions à la voile, entre les Yémen et Zanzibar, à bord d'un boutre chargé de cates et d'encens, sous les étoiles de l'océan Indien. Rêve qu'il aimait à partager avec tous les lecteurs fréquentant son institution, qu'ils aient ou non des rudiments de nautisme. Il racontait les tempêtes qu'il avait affrontées et les naufrages auxquels il avait échappé, ce qui, à Damas, où l'on se souciait traditionnellement bien plus des chameaux des caravanes et de la piraterie tout à fait terrestre des bédouins au désert, était magnifiquement exotique. Les directeurs étaient des professeurs d'université, généralement peu préparé à se retrouver à la tête d'une structure aussi imposante. Ils se contentaient souvent de barricader la porte de leur bureau et d'attendre, plongés dans les œuvres complètes de Jahiz ou d'Ibn Taymiyyah, que le temps passe, laissant à leur lieutenant le soin d'organiser la production dans l'usine à savoir. Les Syriens regardaient d'un œil amusé ces érudits en herbe bagnaudés dans leur capitale, et contrairement à l'Iran où la République islamique était très tatillonne sur les activités de recherche, le régime de Hafez el-Assad laissait une paix royale à ses scientifiques, archéologues compris. Les Allemands avaient à Damas leur institut d'archéologie, où officiait Bilger, mon logeur. L'appartement de Sarah, à ma grande tristesse, était trop petit pour que je puisse y demeurer. Et à Beyrouth, le fameux Orient Institute de la vénérable Deutsche Morgenländische Gesellschaft, dirigé par la coranique et non moins vénérable Angelika Neuwirth. Bilger avait retrouvé à Damas un camarade de Bonn, spécialiste d'art et d'urbanisme ottoman, Stefan Weber, que je n'ai pas revu depuis bien longtemps. Je me demande s'il dirige toujours le département des arts de l'islam du musée de Pergame à Berlin. Weber louait une belle maison arabe au cœur de la vieille ville, dans une ruelle du quartier chrétien, à Babtouma. Une demeure d'Amasène